Bonjour à toutes et à tous. Il est 9h10 à Port-au-Prince, 13h10 en temps universel. Dans cette édition des Amériques et d'Haïti, nous irons d'abord en Haïti, deux jours après l'enlèvement de 16 Américains et d'un Canadien par un gang armé. Et toujours aucune nouvelle de ces missionnaires kidnappés alors qu'ils rentraient d'une visite dans un orphelinat. On fait le point avec notre correspondante et on lira aussi les derniers articles de la presse américaine à ce sujet. Et les États-Unis face à l'irrésistible retour de Donald Trump à un an. Et des midterms, l'enthousiasme lié à l'élection de Joe Biden retombe alors que l'ancien président républicain conserve étonnamment sa popularité, voire la renforce. On en parle dans un instant avec notre invité Corentin Célin, spécialiste de la politique américaine. Et puis comme tous les jours, on terminera cette édition avec le journal des Outre-mer présenté par Tessa Groman. Tessa, nous irons en Guyane où l'obligation vaccinale devient obligatoire à partir d'aujourd'hui pour tous les personnels soignants.
Et oui, et nous verrons que la mise en place du pass sanitaire est une mesure toujours aussi controversée, voire critiquée par une partie des soignants.
Mais à tout à l'heure, Tessa.
Marion Casanov.
Toujours aucune nouvelle de ces 16 Américains et du Canadien enlevés ce week-end en Haïti. Il s'agit de missionnaires et de membres de leur famille qui rentraient d'une visite dans un orphelinat. Et des Haïtiens également ont été enlevés, on ignore précisément combien. L'un des principaux gangs du pays est à l'origine du kidnapping. À Port-au-Prince, correspondance d'Amélie Baron.
Les informations dont on dispose quant aux circonstances de ces enlèvements sont limitées et cela n'a rien d'inhabituel car il s'agit pour les acteurs impliqués de ne pas trop communiquer pour ne pas mettre en péril la vie des victimes retenues otages. Il s'agit de 17 personnes, des missionnaires de l'organisation Christian Aid Ministry et de membres de leur famille qui ont été enlevés ce samedi dans la région située entre la capitale Port-au-Prince et la frontière avec la République dominicaine. L'institution religieuse basée dans l'état de l'Ohio a donc indiqué ce dimanche après-midi que le groupe est composé de 16 citoyens américains et un citoyen canadien, qu'il comptait 5 hommes, 7 femmes et 5 enfants. Vu la zone où cela s'est passé, les soupçons se portent sur le gang appelé 400 Marozo, qui contrôle depuis plusieurs mois cette large zone du pays. Les autorités américaines n'ont pas encore confirmé cet enlèvement de groupe, mais disent être informées des rapports qui circulent. À noter qu'Haïti est classé comme pays en zone rouge par le gouvernement des États-Unis qui déconseille fortement à ses ressortissants de s'y rendre, notamment en raison des nombreux enlèvements commis. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et cet enlèvement en Haïti, on en parle également dans la revue de presse des Amériques et d'Haïti avec vous. Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Et que dit la presse ce matin de l'enlèvement des missionnaires américains ?
Eh bien, l'enlèvement des 16 ressortissants américains et d'un Canadien a propulsé la grave crise liée à l'insécurité en Haïti sur les devants de la scène internationale, estime le Miami Herald ce matin. Dans un pays où pourtant ni les écoliers, ni les vendeuses de marché, ni même les prêtres en pleine messe ne sont à l'abri des gangs, cet enlèvement groupé et spectaculaire a choqué les autorités haïtiennes et étrangères par son audace, souligne de son côté le New York Times. Pour le Los Angeles Times, ce kidnapping illustre aussi le danger qu'encourent les missionnaires religieux américains dans des pays étrangers où ils tentent de trouver de nouveaux fidèles prêts à se convertir à leur foi. Un spécialiste d'Haïti interrogé par le New York Times souligne que les étrangers, et particulièrement les Américains, sont des cibles de choix pour les gangs armés en Haïti, puisque ces derniers pensent pouvoir obtenir une rançon élevée. Le même expert n'a d'ailleurs pas le moindre doute que les missionnaires seront libérés.
Et est-ce qu'on a des informations sur d'éventuelles tractations en cours ?
Alors, pas dans les détails, Marion. En revanche, le Miami Herald rapporte que des agents du FBI sont arrivés à Port-au-Prince à bord d'un avion affrété par le gouvernement américain quelques heures seulement après l'annonce de l'enlèvement des missionnaires. Le New York Times cite ce matin Adam Kinzinger, un élu républicain de la Chambre des représentants et qui est membre de la Commission des affaires étrangères. Il a déclaré hier soir sur la chaîne CNN que le gouvernement américain ferait tout son possible pour récupérer les otages. Nous devons localiser l'endroit où ils se trouvent et voir si des négociations sans payer de rançon sont possibles ou faire tout ce qui est nécessaire sur le front militaire ou policier, a-t-il déclaré.
Et ces propos suscitent l'inquiétude en Haïti, Stéphanie.
Absolument, parce qu'on se rappelle qu'après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet, le gouvernement haïtien par intérim avait demandé l'envoi des militaires américains afin d'améliorer la sécurité en Haïti, une demande à laquelle l'administration Biden n'avait pas donné suite, rappelle le Miami Herald. Le journal de Floride souligne en tout cas que l'enlèvement des Américains et du Canadien représente un nouveau défi pour le gouvernement provisoire haïtien qui apparaît plus affaiblie que jamais.
Et preuve s'il en faut, Stéphanie, le premier ministre haïtien par intérim a expérimenté lui-même hier la toute-puissance des gangs armés.
Tout à fait, Ariel Henry voulait se rendre tôt dimanche matin à Pont-Rouge, c'est un quartier de Port-au-Prince, pour déposer une couronne florale au pied du monument de Jean-Jacques Dessalines. C'était à l'occasion du 215e anniversaire de l'assassinat de ce père fondateur de la nation haïtienne. Mais, comme le rappelle le Nouvelliste, ce quartier de Pont-Rouge est depuis plusieurs années déjà contrôlé par des gangs. Tôt ce dimanche matin, Pont-Rouge a été occupé par des individus lourdement armés. Ils ont fait obstacle au Premier ministre, rapporte le journal haïtien. Sous le crépitement d'armes automatiques, les caïds ont repoussé la délégation officielle qui a quitté avec précipitation le quartier. Le Premier ministre, les membres du gouvernement, même le chef de la police, entre autres, ont pris la poutre d'escampette sous les balles des bandits, raconte le Nouvelliste.
Et c'est dans ce contexte que les syndicats des transports publics et des chauffeurs de taxi en Haïti entament aujourd'hui une grève illimitée pour protester contre l'insécurité et la pénurie du carburant, elle aussi liée aux gangs armés.
Oui, c'est ce que rapporte l'agence haïtienne Interpresse ce matin. Les chauffeurs des transports sont en effet parmi les premières victimes des gangs armés. Faire grève pour que les autorités haïtiennes trouvent enfin une solution au problème de l'insécurité leur coûte pourtant très cher, comme l'explique Petrus Leris de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, interviewé par le Miami Herald. Je vous propose de l'écouter.
C'est la ceinture serrée que les chauffeurs restent chez eux. Parce que le jour où ils ne sortent pas, ils ne mangent pas. Le jour où ils ne sortent pas, leurs enfants ne vont pas à l'école. Leur lieu de travail, c'est la rue. Et depuis un moment, nous sommes obligés de risquer notre vie pour travailler dans la rue. Nous sommes les premières victimes de l'insécurité. Quand nous ne sommes pas tués, les gangs nous kidnappent. Quand ils ne nous kidnappent pas, ils nous tirent dessus et ils nous volent ce que nous possédons.
Et c'est avec ce témoignage que s'achève votre revue de presse des Amériques et d'Haïti. Merci Stéphanie Schuller. Au Brésil, il faudra attendre encore un peu pour une décision très attendue de la commission d'enquête du Sénat. Elle devait se décider demain à publier son rapport sur la gestion de la crise sanitaire par le président Jair Bolsonaro avec une éventuelle mise en cause de ce dernier. Il faudra donc attendre encore quelques heures à Sao Paulo, Martin Bernard.
Les représentants des familles des victimes vont témoigner devant la commission d'enquête ce lundi. Ils vont raconter comment de nombreux décès auraient pu être évités alors que le Brésil a enregistré plus de 600 000 morts depuis le début de la pandémie et comment le gouvernement a aggravé les choses. Mais le rapport final, qui incrimine directement le président Bolsonaro et prévoit une dizaine de chefs d'inculpation, ne sera plus présenté mardi comme prévu. Des divergences sont effectivement apparues au sujet de la teneur du texte préparé par le rapporteur Renan Calheiros. Il évoque notamment un génocide des Amérindiens en raison du Covid, mais plusieurs sénateurs modérés estiment que ce terme « génocide » n'est pas approprié. Le rapporteur a donc accepté de prendre le temps de la réflexion et le vote de son rapport, qui devait avoir lieu mercredi, est repoussé à la semaine prochaine. Mais le président Bolsonaro, ainsi que ses enfants, pourraient bien se retrouver dans les cordes. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Une des plus ignobles injustices. Voilà comment a réagi le président Nicolas Maduro, président vénézuélien, en apprenant la nouvelle de l'arrestation et de l'extradition d'Alex Saab vers les États-Unis. L'homme d'affaires a été arrêté au Cap-Vert, proche du président Maduro. Il est accusé avec un autre homme d'être à la tête d'un vaste réseau qui aurait permis aux chefs d'État de détourner à leur profit de l'aide alimentaire à destination du Venezuela. Aux États-Unis, on vient d'apprendre la mort de Colin Powell, secrétaire d'État sous George Bush. Il est mort à des suites du Covid-19, annonce sa famille aujourd'hui. Il était le premier afro-américain à occuper le poste de chef d'état-major des armées avant de rentrer dans l'administration Bush.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
On reste aux États-Unis à un an des midterms, les élections de mi-mandat. Les États-Unis où l'euphorie suscitée par l'arrivée du démocrate Joe Biden au pouvoir s'essouffle, en cause notamment les difficultés que rencontrent les deux grands projets de loi de Joe Biden sur les infrastructures et la revitalisation de l'État-providence. Les négociations patinent et cela se reflète dans les sondages. Pendant ce temps, le camp républicain se renforce. Donald Trump se prépare à prendre sa revanche. Les démocrates en perte de vitesse. Les Républicains en force, on en parle aujourd'hui avec notre invité Corentin Célin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste de la politique américaine. Vous êtes aussi chroniqueur chez lesjours.fr. Corentin Célin, d'abord, pourquoi les deux prochaines semaines aux États-Unis vont être cruciales pour Joe Biden ?
Parce que le temps presse désormais pour le président Biden afin de faire voter ces deux grands projets d'infrastructure qu'il a lui-même liés. D'abord, ce compromis bipartisan qu'il a réussi à arracher au Sénat sur les infrastructures physiques, sur les ponts, les routes et leur rénovation. Et par ailleurs, le grand projet à faire, lui, encore voter au Sénat, de rénovation de l'État-providence, avec en particulier des très grands projets d'investissement pour le climat et aussi une rénovation du système de santé Medicare. Et en effet, ces deux projets de loi sont pour l'instant dans les limbes, puisqu'ils sont liés l'un à l'autre et les modérés, les conservateurs démocrates du Sénat, en particulier les sénateurs Manchin et Sinema, s'opposent pour l'instant au grand budget de dépenses sociales et climatiques. Et les progressistes de la Chambre, cette fois-ci, la gauche progressiste de la Chambre, s'opposent, elle, en conséquent, tant que le premier projet ne sera pas voté, au vote du compromis bipartisan sur les infrastructures physiques.
Et justement, ces projets de loi dont les négociations patinent, elles montrent des divergences internes, vous l'avez souligné, chez les démocrates. À quel point cette fracture interne est-elle grave ?
Alors, il faut rappeler que le Parti démocrate est maintenant depuis au moins une décennie divisé entre une majorité social-libérale, acceptant tout à fait le compromis avec les compromis avec le capitalisme libéral et aussi le financement privé des élections, et une minorité de gauche progressiste qu'avait incarné par exemple Bernie Sanders dans ses candidatures, qui elle est beaucoup plus radicale et qui demande un grand retour de l'État-providence, un grand retour de la dépense publique. Tout ça avait été mis sous le tapis lors de la candidature Biden. On s'était rassemblé derrière Biden comme plus petit dénominateur commun au nom de la lutte pour la démocratie contre Trump. Maintenant que Trump est parti, il faut arriver à trouver des points de convergence pour gouverner, pour légiférer. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Biden avait promis d'être un grand négociateur, arguant de ses 36 ans au Sénat, entre autres. Mais de toute évidence, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité.
On peut rester encore un peu dans le camp démocrate avant de passer aux républicains. Aujourd'hui s'ouvre en Géorgie le procès du meurtre d'Ahmaud Arbery, un Afro-Américain de 25 ans, tué alors qu'il faisait son jogging. En février 2020, trois hommes blancs vont être jugés. Sur ce sujet des violences raciales systémiques, Corentin Célin, est-ce que Joe Biden a permis des avancées ?
Alors, là encore, on serait tenté de dire que cela patine, en particulier sur le domaine des violences policières, puisque le Congrès avait commencé des négociations bipartisanes et au printemps dernier, Joe Biden avait invité le Congrès à voter une législation pour le premier anniversaire de la mort de George Floyd des mains du policier Derek Chauvin. Et on voit bien que rien n'est advenu. Et bien pire, il y a quelques semaines, on a appris que ces négociations bipartisanes menées par deux sénateurs africains-américains, le sénateur Booker, démocrate, et le sénateur Scott, républicain, avaient échoué. Elles n'ont abouti à rien, ce qui est une nouvelle preuve aussi, peut-être, de l'entêtement de Biden à vouloir obtenir des consensus avec les républicains. Mais est-ce qu'en 2021, il y a encore des consensus possibles entre démocrates et républicains, tant leurs positions sont éloignées, en particulier sur la question des violences policières? Et donc, sur ce terrain-là, on voit aussi véritablement un ralentissement et aucune avancée notable.
Et de son côté, Donald Trump, lui, se porte bien dans les sondages. D'après une étude du Pew Research Center datée du 6 octobre, 2/3 des sympathisants républicains veulent que Trump joue un rôle politique actif dans les années à venir. C'est 10% de plus qu'en janvier dernier. Près de la moitié espère une nouvelle candidature. Ce renouveau de popularité, est-ce qu'il est lié seulement au dernier déboire de Joe Biden ?
Non, pas seulement, car comme on a pu le démontrer, Donald Trump a réussi quelque chose d'assez inédit dans l'histoire des États-Unis. Quoique perdant de l'élection l'année dernière, il a utilisé cette défaite qu'il conteste toujours, qu'il n'a toujours pas reconnue, pour renforcer son emprise idéologique sur le parti. Et en fait, un an après la défaite électorale, Donald Trump est toujours tout puissant au sein du Parti républicain. Et il a même diffusé et imposé son récit de la victoire volée, sur le fait qu'il aurait été volé de la victoire présidentielle. Et en effet, on retrouve cette proportion de 2/3, puisqu'aujourd'hui, tous les sondages convergent. Si Donald Trump se présentait à la primaire présidentielle républicaine 2024, il obtiendrait 2/3 des suffrages. Il écrase littéralement le champ républicain. Et on voit bien d'ailleurs que beaucoup d'élus républicains qui le critiquent en off, qui le critiquent micro fermé, se rallie toujours à lui en public, et ça obstrue toute volonté de Biden de trouver des consensus. De ce point de vue, vraiment, Donald Trump a vraiment réussi son après-présidence en interne. Maintenant, il reste à voir, cependant, si ce parti républicain sauce Trump, c'est-à-dire vraiment sur une ligne nationaliste, identitaire, est-ce qu'il peut arriver à une position majoritaire dans l'ensemble de l'opinion. Ça, c'est pas encore certain.
Merci Corentin Célin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique américaine. On peut vous lire également sur le site lesjours.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Tessa Groman, pour cette édition des Caraïbes et de Guyane. Depuis ce matin, Tessa, le personnel soignant non vacciné risque des sanctions.
Oui, en Guyane, suspension de travail dans le secteur public, déremboursement des actes dans le secteur privé. Dans les faits, ces mesures vont être appliquées progressivement. Mais à l'hôpital de Cayenne, les avis sur la vaccination restent partagés, comme l'a constaté hier Guillaume Perrault de Guyane la Première.
À quelques heures de l'instauration de l'obligation vaccinale, vaccinés ou non, les personnels soignants rencontrés aux abords de l'hôpital de Cayenne ce dimanche souhaitent garder l'anonymat. Le sujet est particulièrement sensible et provoque des tensions au sein des services, nous explique Henriette, qui travaille ici depuis de nombreuses années.
Il y en a qui sont pour et qui le revendiquent, et d'autres qui sont contre, donc qui sont un petit peu agressifs envers les autres personnes du service. Si on dit qu'on est vacciné, on risque d'avoir pas tout le service, mais certains collègues vont nous faire la gueule.
Pour Nicolas, il ne faudrait pas fragiliser l'hôpital. L'offre de soins en Guyane était déjà en grande difficulté avant la Covid-19.
On est déjà en sous-effectif. Vous savez, il y a des opérations qui sont repoussées, mises à côté.
Hier, au centre de vaccination de l'Ancre, sur une centaine de doses injectées, seuls 3 professionnels de santé sont venus se faire vacciner pour travailler sereinement sans craindre de sanctions.
Et ce matin, une centaine de militants de la caravane de la liberté qui s'oppose à l'obligation vaccinale a bloqué le port de Guyane ainsi que l'accès à l'usine de la Sara qui raffine le carburant pour tout le département. En bref, nous vous en avions parlé la semaine dernière. En Guadeloupe, une jeune fille de 16 ans jugée pour l'assassinat de sa mère a été condamnée samedi à 14 ans de prison. Le tribunal pour enfants a retenu la préméditation. L'adolescente avait tué sa mère par balle sur le parking d'un centre commercial. Les avocats de la jeune fille ont fait appel du jugement. Toute cette semaine, des experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature sont en mission en Martinique. Ils viennent examiner la demande de classement de la montagne Pelée et des Pitons du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO. Marcelin Nadeau, maire du Prêcheur et membre du Parc naturel, explique les avantages de ce classement pour la Martinique. Il est joint par Grégory Gabour.
Il est prouvé que les sites classés patrimoine mondial augmentent leur affluence de 40%, leur affluence touristique. Donc ça voudrait dire que nous avons là un potentiel de développement. Mais il ne s'agit pas non plus de sacrifier sur l'autel du développement justement ce patrimoine exceptionnel. Il s'agit justement de trouver les moyens de à la fois de préserver ces sites exceptionnels, mais en même temps de pouvoir permettre à notre pays ce développement touristique à travers justement une sauvegarde et le maintien de l'intégrité du bien.
Marcelin Nadeau, maire du Prêcheur, interrogé par Grégory Gabour de Martinique la Première. La réponse de l'UNESCO au classement de la montagne Pelée et des Pitons du Nord est attendue en juillet 2022.
Et merci Tessa Groban, c'était le journal des Outre-mer. Et ainsi s'achève cette édition des Amériques et d'Haïti. On se retrouve demain à la même heure, 13h10, temps universel, pour une nouvelle édition. Merci à Claude Battista, à la réalisation, à Véronique Guémard, à la rédaction en chef. Dans un instant, vous retrouvez De Vive Voix avec Pascal Paradou.
RFI.
Tous les jours,